bonjour à toutes et à tous. C'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme. Alors, entre deux hurlements de rire, Karine, c'est quoi la plus belle conquête de l'homme?
C'est moi.
Alors, l'homme en face en face est d'accord?
Oui, c'est elle. Oui, aujourd'hui, il faut être d'accord avec elle. C'est
il
peut-être
faut être
sa dernière
avec elle.
Émission.
J'ai l'impression
alors,
qu'il faut
est
être d'accord,
d'accord
avec elle.
Tout.
Ah, mais oui, c'est la qui pour elle. D'accord. Donc, elle va être épouvantable pendant une demi-heure.
Non, je serai toute mignonne.
Oh, c'est
comme
trop
d'habitude.
Gentil, trop gentil. Donc, une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie avec aujourd'hui autour de la table. Vous l'avez reconnu.
Bonjour.
Et Jean-Claude Adelin.
Bonjour.
Alors, bon, on se lance pour une chevauchée radiophonique de 25 minutes.
C'est parti.
Alors, on va commencer par prendre le cheval au mot. Voilà, et aujourd'hui, donc, le mot « rebours », comme dans l'expression « à rebours ». Alors, ça veut dire quoi, « rebours » hein?
Oh, je sais pas, moi, je dirais
un cheval qui veut rien faire, moi, je dirais.
Non, pas un cheval bourré, un cheval à rebours.
Oui, hein. Un cheval qui se refuse à tout faire, ce qu'on lui demande.
Voilà.
Et je suis pas sûre, hein.
Oui, non, mais c'était pas très loin, t'es pas très
t'as
loin.
Bien, t'as bien retenu, mais c'était il y a pas longtemps qu'on a donné la définition, c'est pour ça.
Non c'est pas vrai.
Hein ah,
c'est
d'accord.
Parce que je me cultive, moi.
Oui, mais elle aurait pu l'oublier quand même. Donc, elle l'a retenu. Là, je suis méchant.
Michel, tu vas manger pendant l'émission.
Michel prend la relève. C'est merveilleux.
Alors, rebours, c'est un adjectif qui est issu du latin, bien sûr, comme beaucoup de mots en français, et qu'on voit apparaître dans le français, je dirais, moderne, vers la fin du XIIe siècle. Et en fait, ça décrit une personne qui a, ça n'a rien à voir avec le cheval, une personne qui a les cheveux retroussé.
Oui, rebrousse-poil,
exactement. D'accord. Tu me pètes ma chute, mais c'est pas grave, je n'en veux pas, Jean-Claude. Alors, le mot évolue et prend dans la première moitié du XIIIe siècle le sens de revêche. Hein, donc,
et voilà, prendre quelqu'un voilà. À rebrousse-poil aussi.
On vient de le dire. Hein.
Non, on a parlé de la coupe de cheveux. Moi, je te parle de prendre quelqu'un à rebrousse-poil.
Ah, la coupe de cheveux à rebrousse-poil.
Ouais.
Ah.
Là, je te parle de prendre quelqu'un à rebrousse-poil.
Alors, c'est au XVe siècle d'accord. qu'il entre dans le vocabulaire équestre rebours pour décrire un cheval rétif, difficile, voire inintéressant à monter parce que il est ni méchant, ni gentil, ni rien, quoi. C'est pas le cheval qui se fige, hein. C'est le cheval qui veut rien faire, quoi, tout simplement.
Mais ça vient voilà. De quoi? Ça vient de, il s'est braqué contre l'homme ou il est naturellement comme ça?
Alors ça, il faudrait demander l'avis au cheval, mais en règle générale, non. C'est pas classé comme vice rédhibitoire, hein. D'accord, mais c'est quand même un défaut qui est important et important à corriger parce que c'est un cheval qui a, je dirais, pas d'énergie quoi. Qui a, ça veut pas dire qu'il soit pas fort, mais il a pas envie. Il a pas envie, c'est tout. Il dit non. Voilà, il dit non gentiment, mais fermement. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cheval rebours. Voilà. Et alors, on peut arriver à faire quelque chose, mais là, bon, il faut avoir des trésors de patience. Hein, et essayer petit à petit finalement de le convaincre d'au moins avancer, d'au moins mettre un pied devant l'autre, etc.
C'est pas une forme d'autisme ça un petit peu, non?
Alors ça je sais parce pas que... là tu me poses une colle, je serais
quand
vraiment...
même il doit y avoir une déconnexion au niveau du cerveau. Moi j'ai rencontré un jour un cheval comme ça qui était très très particulier d'ailleurs. Il venait d'un élevage de Mérins. Le cavalier qu'il montait c'était un éleveur de Mérins, voilà, et il avait un problème avec un cheval et c'était un cheval qui pouvait pas être seul, il devait toujours être mais non pas grégaire, mais hyper grégaire, quoi.
Oui, oui.
Il ne comprenait rien. Tu lui demandais de tourner à gauche, il y avait un cheval à droite, il se collait à l'autre cheval à droite.
Voilà. Alors, et voilà. Voilà, effectivement, et
donc
ça, c'est
un rebours,
vrai.
Lui.
En fait, voilà. Et c'est-à-dire qu'il faut essayer plein de trucs avec un cheval rebours. Et des fois, comme tu viens de le dire, peut-être simplement un copain, simplement, je sais pas quoi, même le bourricot, même le chien qui va accompagner la balade peut déclencher quelque chose chez l'animal. Mmh. Mais enfin, on tâtonne quand on est dans le brouillard.
Oui, il y a au niveau de la connexion du cerveau. Il y a quelque chose qui se fait pas très bien quoi.
Et
oui, c'est ça.
Comment on détecte chez le cheval?
Ah ça, tu le vois vite. Hein.
Alors là, tu le vois vite dès l'instant où tu le mets, parce qu'il a un comportement normal dans le pré, il a un comportement normal dans le box, il a un comportement normal. Enfin, il y a pas de problème. Mais quand il est en contact avec l'homme qui veut en faire quelque chose, et je dis pas une personne qui l'a maltraité, mais moi, j'analyse ça comme une espèce de désintérêt absolu. Tu me demandes ce truc, mon petit bonhomme, mais franchement, j'en ai rien à fiche.
On en a pas un à la maison, nous?
Non.
Non, vous avez jamais vu ça?
Ah, moi, je te dis, j'ai vu ça sur un Mérins.
Sur un Mérins, voilà, c'est ça. Parce que moi aussi, j'ai vu ça.
Sur une carrière, une carrière de 60 mètres par 40, tu vois, on était une quinzaine de chevaux. Ce cheval venait se coller aux autres chevaux. Et de temps en temps, Dibous lui demandait de faire quelque chose. Impossible.
Impossible,
mais impossible d'avancer 3 mètres. Et il arrivait, boum, il se collait à l'autre cheval. Et puis à ne pas s'en défaire.
Hein. Oui. Et en même temps, un cheval rebours n'est pas un cheval agressif.
Non, pas du tout.
Il est complètement, complètement raplapla. C'est comme s'il n'était pas concerné. Comme si c'était quelque chose.
C'est vrai que ça ressemble à de l'autisme. À part laisser dans un pré, tu peux rien en faire. En fait.
Rien.
Ah, avec une bonne broche, des chevaux.
Comment?
Non, je pensais à autre chose.
Ouais. Pense à autre chose, Michel.
Voilà. Alors maintenant, on va faire un petit saut en Amérique. Ah. Voilà. Donc, quand le conquistador qu'on connaît tous, conquistador espagnol Hernán Cortés, débarque au Mexique en 1579, pour être précis, le cheval est absent du continent américain depuis plusieurs millénaires. Il y en avait avant, mais il y en a plus. Alors, Cortés amène avec lui des chevaux barbes issus des élevages d'Andalousie. On sait très bien qu'il y avait énormément de chevaux barbes en Espagne, en particulier, puisque historiquement les principaux importateurs de chevaux barbes, ça a été les Romains. Ce sont été les Romains qui en ont apporté d'Afrique du Nord par milliers. Et je profite pour rappeler que le cheval barbe est un cheval. Il ne faut pas le confondre avec le cheval oriental ou cheval arabe. Ça n'a rien à voir. C'est un cheval qui est strictement africain. On a retrouvé en archéologie des squelettes de chevaux barbes qui sont exactement pile poil semblables aux squelettes des chevaux barbes actuellement. Donc c'est vraiment un animal endémique d'Afrique du Nord. Alors donc, ces chevaux, certains ont été lâchés, perdus ou volés, et sont redevenus sauvages. Donc ils sont arrivés en Amérique éduqués et ils redeviennent sauvages. Et ils font souche. Donc voilà, ils se reproduisent et donnent naissance au fameux Mustang, ce qu'on appelle le Quarter Horse, absolument.
Parce que le Mustang et tout ce qu'on appelle
les Palominos, etc. Enfin bon, toutes ces races américaines, les Pintos, etc., qui sont tous qu'on peut regrouper le cheval Mustang.
C'est-à-dire que Karine avait une question, le Mustang et le Quarter Horse, est-ce que c'est le même cheval? Il y a une différence.
C'est deux races différentes.
Non, la race non.
Non, ce sont des barbes. Dans le cas, il y a une histoire pour le Quarter Horse qui effectivement. C'est un cheval qui a été, comment dirais-je, sélectionné pour ses aptitudes. En fait, c'est le quarter mile, c'est-à-dire le quart d'un mile, un peu plus d'un kilomètre, qui est extrêmement rapide. Et du reste, on le voit chez le quarter horse. Enfin, bon, c'est un cheval qui est extraordinaire. D'abord, d'une gentillesse totale. C'est un des chevaux les plus gentils que j'ai jamais rencontrés et qui court très vite. Et on le voit à son physique, c'est-à-dire qu'il a ses antérieurs légèrement plus courts que ses postérieurs. Puis alors, des fesses de marathonien, ou de sprinter, plus exactement.
Et le Mustang est un cheval sauvage.
Voilà.
Complètement.
Tout à fait. Et donc, comme tous les animaux qui sont revenus.
Apprivoisés.
Voilà. Oui, on peut avec du talent.
Voilà. Et comme tous les animaux qui sont revenus qui sont redevenus sauvages, on voit effectivement une diminution de la hauteur. Voilà. Donc ils sont plus petits. Ah oui, ils sont plus petits.
Les chevaux sauvages deviennent plus petits.
Eh ben ça c'est tous les animaux qui retournent dans la nature sauvage, si je puis dire, mangent moins bien, moins régulièrement, se dépensent plus, etc. Et donc cette espèce de la taille n'est pas un atout en réalité. Jean-Claude, t'es bien d'accord.
Ça dépend.
La taille n'est pas un atout
pour les animaux sauvages.
Un exemple au hasard, regarde Karine.
Ah oui.
Elle a tous les atouts.
Merveilleusement bien d'ailleurs.
Merveilleusement bien. Voilà. Accordons-nous maintenant une pause musicale avec Véronique Sanson et Maxime Le Forestier. J'y perds des plumes.
C'est tous les mêmes.
Dis-moi si c'est bien d'avoir une femme qu'on aime. Si tous les soirs tu sors le chien pour remonter dans ton troisième.
Pour moi tout va bien. Je goûte les dîners trop mondains. Chaque fois j'y vois trop d'amertume. J'y perds la vie, j'y perds les plumes.
Oh toi qui tourne dans ma tête.
Si toi
si tu te mords. Y'a 2000 mecs qui pleurent dehors.
Et pour moi, c'est toujours bien. J'ai toujours peur de rien. J'ai pas donné dans le bas de l'aile. Faut pas rêver, c'est pas la peine.
Oh, toi qui tourne, tourne dans ma tête, pas. Enlève mon tatouage et laisse-moi tourner la phrase.
Avec les chevaux, les colons espagnols introduisent également au Mexique un nombre important de bovidés qui eux aussi s'adaptent bien à ce nouvel environnement et font souche. Et pour s'occuper de ces immenses troupeaux, des cavaliers bergers sont recrutés en Europe. Il y a une grande vague de recrutement. Et ce sont les vaqueros, vaca, un vache, à partir desquels le cinéma western forgera l'image mythique du cow-boy anglo-saxon. Bon, voilà, eux, c'était plutôt des espagnols, mais enfin bon, le cow-boy anglo-saxon. Donc ce nomade solitaire qu'on connaît bien, qui arpente les vastes prairies de l'Ouest américain, accompagné de...
Non,
lui, c'était pas un cow-boy. Et donc, accompagné de ses trusseurs amis, que sont son cheval, son colt et sa carabine Winchester. Oh là, celui-là, voilà. Cow-boy solitaire, voilà. Lucky Luke. Et avec leur technique équestre, les Espagnols exportent en Amérique leur matériel aussi, et en particulier la selle dite andalouse, la doma vaquera. Voilà. Alors, on va décrire un petit peu cette selle. En premier lieu, comme la plupart des selles de travail, elle est fabriquée avec les matériaux disponibles sur place. Bon, on sait que la selle, la doma vaquera en Espagne, est fabriquée avec peau de mouton et des roseaux. Donc, ils poussent dans milieu humide et qui servent à faire l'arçon. L'arçon est un arçon de roseau. Voilà. Alors, on va voir la selle mexicaine, donc qui est en fait aussi faite avec les matériaux que les Mexicains trouvent sur place. Et souvent, c'est même le cavalier qui fabrique sa propre selle. Ça, c'est la façon de faire. Alors, l'arçon de cette selle, surtout dans le nord du Mexique, est taillé dans le bois d'une variété de figuier de Barbarie, qui est relativement mou comme bois. Certaines fois même, c'était fait avec cette purée de bois qui ensuite, avec quelques produits dedans, se solidifiait et la moulait. Enfin, c'était toute une technique selon les régions. Alors, deux planchettes latérales forment les bandes d'arçon et cette partie de la selle, donc l'arçon qui est en contact avec le dos du cheval. Donc il faut que ça soit confortable pour le cheval. Et ces bandes d'arçon sont rendues solidaires par deux autres pièces de bois qui constituent à l'avant le pommeau, assez court mais épais, et à l'arrière, bon, le trousquin. Voilà, donc une selle qui est très enveloppante. Bon, on est bien calé dessus hein, par rapport à une selle anglaise classique, voilà, que tout le monde connaît. Alors le tout est assemblé par des chevilles de bois, donc c'est vraiment du petit artisanat. Et par contre, pour que l'arçon soit solidaire, il est enserré dans une peau de bœuf non tannée, donc ce qu'on appelle le parchemin, que les Mexicains appellent le retobo. Voilà. Et on mouille la peau à cœur, hein, et ensuite on enserre l'arçon avec cette peau qui, en séchant, se rétracte et bloque complètement toutes les pièces de la selle et la rend à la fois souple, mais extrêmement solide. Voilà. Alors le vaquero couvre le tout, parce que quand même, il faut protéger un peu les fesses du monsieur, avec une large chemise de selle en cuir, qui s'appelle la comecita, qui est fixée elle-même à l'arçon par des lanières de cuir qu'on appelle les latigos. Sur ta selle américaine, tu as aussi des latigos, puisqu'on retrouve ça sur la selle texane. Et enfin, la selle est équipée d'une paire d'étriers, généralement de forme ronde, chacun d'eux protégé par une large poche de cuir épais, les tapaderos. Alors, il y a différentes longueurs. Généralement, dans les shows aux États-Unis, on voit pratiquement les tapaderos qui traînent par terre. Voilà. Alors, comme toutes les selles pour travailler au milieu des troupeaux, la selle vaquera respecte quelques principes essentiels. Une grande solidité, on l'a vu, la simplicité de sa conception, parce qu'on n'avait pas un bourrelier dans tous les villages, donc il fallait que ça tienne le coup, et les gens montaient beaucoup à cheval, enfin ils partaient des journées, voire des jours entiers. Pas besoin d'énormément d'outils pour la réparer, et beaucoup de lanières de cuir aussi, qui servaient de fil à coudre quand il fallait réparer la selle. Donc on voit qu'ils sont des décorations, mais qui sont surtout le petit stock de cuir, de lanières de cuir qu'on a pour pouvoir réparer. Parce qu'il faut voir aussi que le Mexique, on croit que c'est toujours très chaud, machin, c'est pas vrai. Il y a toutes des contraintes climatiques qui sont importantes, parce qu'on peut avoir la neige, on peut avoir la pluie, on peut avoir des périodes de sécheresse. Donc on a un petit peu tout dans le même verre. Et des contraintes également géographiques, comme la traversée des cours d'eau, ça, où on mouille beaucoup le matériel et donc on l'abîme. Elle doit aussi assurer cette la protection du cavalier contre les coups de corne du bétail, parce que quand on est au milieu d'un troupeau, on peut se faire mal, mais également résister à une végétation particulièrement agressive, constituée souvent de buissons épineux, et ces fameuses herbes de la pampa, si je puis dire, qui sont coupantes comme des rasoirs. C'est haut, enfin, je veux dire, ça fait près de 2 mètres de haut, ça coupe vraiment comme des rasoirs. Et enfin, et aussi important pour ces gens-là, qui étaient des petits ouvriers agricoles, quoi, c'est son faible coût. Ça coûte pas cher. Voilà. Alors, on voit bien la filiation. Alors ça, c'est intéressant, hein, entre la selle mexicaine et l'origine. Donc, elle est inspirée, cette selle mexicaine, de la selle andalouse, qui elle-même a été inspirée de la selle arabe. C'est en droite ligne. Et la selle mexicaine inspirera à son tour cette selle emblématique popularisée par le cinéma américain ou par Buffalo Bill, etc., ce qu'on appelle la selle western, qui est en fait plus génériquement appelée la selle californienne. Voilà, c'est-à-dire une selle assez creuse, avec un trousquin et un pommeau assez proéminents, par rapport à la selle dite western, qui est une selle beaucoup plus plate. Voilà. Et c'est vrai que dans une selle californienne, on monte, je dirais, de façon classique, c'est-à-dire très droit, les fesses avalées sous le corps, etc. Alors que dans la selle western, on monte plutôt un petit peu en arrière et un petit peu avachi, si je puis dire, les jambes un peu en avant, parce que le siège est très plat. Alors la ruée vers l'or californien, puis la prospection pétrolière, parce qu'il y a aussi le pétrole qui a débuté vers le milieu du 19e siècle, même un terme à l'épopée des vaqueros. Le morcellement des terres agricoles en petites propriétés créées par les populations nouvellement arrivées de l'est du pays freine la pratique de l'élevage extensif, qui exige lui de très très grands espaces. Effectivement, maintenant on a des petites fermes, une poignée de bêtes à cornes dans un coin, deux poignées à l'autre, etc. On n'est plus dans ces immenses troupeaux d'auparavant. Et commercialement, et la gestion de ces troupeaux est différente. Comment ils faisaient? C'est-à-dire ils créaient des centres de regroupement où chaque propriétaire amenait ses 3, 4, 10, 15 vaches, etc. Et on se souvient tous, on a tous vu des westerns à Bilaine, qui était dans le Texas, cette ville dans l'état du Texas, cette ville qui était la ville de regroupement de tous les troupeaux de la région. Et ces troupeaux, parce que là aussi, il y a eu l'impact du chemin de fer, bien évidemment. Donc ces troupeaux étaient ensuite chargés dans des trains bétaillers, et tout ça allait allègrement se faire abattre à Chicago, qui était à l'époque le grand centre d'abattage des États-Unis. Voilà comment les choses se passaient. Voilà. Et comment ces grands troupeaux se sont modifiés. Et effectivement, ça a été la fin des vaqueros. Alors, aussi, autre chose à tordre le cou, on pense toujours, évidemment, et ça c'est le cinéma américain, que les cow-boys étaient sur des chevaux. Mais non, les chevaux coûtaient cher, malgré tout. Coûtait très cher. Et en fait, le cow-boy, hein, c'est pas un anglo-saxon, c'est un Mexicain. C'est un Mexicain qui arrive, qui marche souvent pieds nus et qui ne montait pas des chevaux. Les plus fortunés d'entre eux montaient sur des mules.
C'est plus chouette dans les films, hein.
Ah oui, c'est plus chouette dans les films, absolument.
Oui, dis donc. Parce voilà. que là, ils en faisaient des kilomètres à pied. Hein.
Ils en faisaient des kilomètres à pied, absolument. Oui, 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 oui. Mais c'est vrai, on a cette image du cow-boy, etc., qui travaille.
Avec son long manteau, son chapeau bas.
Ouais, ouais, non, 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 non. C'était des ouvriers agricoles qui étaient vêtus comme ils pouvaient et qui montaient des mules, quoi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, hein?
Je trouve qu'effectivement, c'est plus beau dans les films. Les John Wayne qui ont la classe à cheval et les Indiens qui montent super bien et qui savent parler aux chevaux. Ouais. Moi, je trouve ça quand même vachement plus sympa.
Ça casse un peu un mythe, là, Michel.
Ouais.
Là.
Ouais. J'ai mis un peu d'anti-mythe dans mon émission.
Ouais, carrément. Ouais. Bon, mais moi, j'aime bien Cortés, quand même. Hein.
T'aimes bien Cortés?
Ah, ouais, j'adore.
Ah, Herman.
J'aime bien, j'aime bien. Il a amené les chevaux aux États-Unis, c'est bien.
Bravo. Oui, c'était
bravo.
Un bon,
ouais.
Puis ensuite, ça a continué ensuite, puisque l'Espagne a exporté beaucoup de chevaux par la suite.
Par contre, ce qui s'est passé plus tard avec les Mustangs aux États-Unis, c'est beaucoup moins chouette, hein, déjà.
Ouais, tout à fait. Où il y a eu, mais il n'y a pas si longtemps encore, une éradication. Enfin, on a voulu éradiquer les Mustangs d'hélicoptères en leur tirant dessus.
Mais c'est de ça que je parle.
Tu vois, c'est les mêmes qui gèrent tout le territoire, qui gèrent le territoire des vaches et qui gère la protection des chevaux sauvages.
Oui,
et c'est le même lobbying.
Ah oui, bah alors ça, c'est parce qu'on appelle un conflit d'intérêts.
C'est à l'américaine, ça marche bien.
Ouais.
Je sais pas.
Enfin,
voilà.
Mais enfin, effectivement, moi, j'ai vu des trucs. Enfin, bon, c'est chevaux traqués avec le type dans l'hélicoptère en train de les flinguer les uns après les autres. Ça fait. Ouais. Même si on peut imaginer.
Ça, c'est parce qu'en fait, tout le monde, c'est parce qu'il y a une surconsommation de vaches et donc de bœuf et donc.
Donc, il faut ouvrir. Les pâturages,
ils peuvent pas parce qu'en plus les chevaux se déplacent énormément et voilà, donc ils détruisent le terrain et non, la solution c'est pas de manger de viande. C'est mieux.
Alors, à lire pour en savoir plus, donc sur le titre du livre, c'est Un beau jour pour mourir de James Welch aux éditions Albin Michel dans la collection Terres indiennes, et cet ouvrage est disponible à la médiathèque de Rodez.
Nous arrivons maintenant au terme de cette émission, donc c'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Là, c'est un étalon. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr, un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.